Les voix de femmes.
Des choses genre.
Голос женщин.
صدای زنان.
Генерас мунид.
Мусол лала денди.
Une conversation libre sur les conditions de la femme entre femmes de ici et d'ailleurs. Bonjour à tous et à toutes. Le Va de Femme sur la Studio ZEF avec Lisa Karimi et Alice à côté de nous.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
Donc aujourd'hui, avec Alice, on a choisi une thématique ensemble, parler et discuter par rapport aux situations de l'Afghanistan, par rapport aux situations des Afghans en étranger, surtout aussi parce que j'ai quelques matériels. On a discuté un peu extérieur et intérieur. Et surtout... Au niveau de qu'est-ce que se passe en Afghanistan.
Voilà, on va inverser un peu les rôles aujourd'hui, parce que Lisa, tu as beaucoup à nous dire
oui.
sur cette situation. Donc voilà, moi je vais poser un peu plus les questions aujourd'hui voilà. et puis on va pouvoir partager sur cette situation que tu connais parfaitement bien. Merci. Alors, avant tout, ça va comment l'Afghanistan aujourd'hui en mars 2026 ?
Ok, ouais, c'est vraiment pour te dire que depuis plusieurs mois, bien sûr, qu'il y a une situation grave qui est changée au niveau de les voisins de notre pays, avec les Pakistans, qu'est-ce qui se passe, et aussi après les changements politiques et guerres, je peux dire entre guillemets, guerres vraiment qui passent dans l'Iran, ça a impacté beaucoup l'Afghanistan.
En quoi ça impacte justement?
Oui, il y a beaucoup d'impacts. Déjà, l'Afghanistan, il était un pays qui est souffrant beaucoup au niveau politique, pas de stabilité, au niveau de sécurité, pas de stabilité, au niveau de sécurité régionale, pas de stabilité, diplomatiquement, on était dans une situation mauvaise, et socialement aussi. Donc, ça a augmenté, là, actuellement. Par exemple, au niveau de pauvreté, il y a fermeture au niveau de frontières de l'Iran et Pakistan. Donc, fermeture de l'Iran et Pakistan, ça vous dit, ça a un impact direct au niveau de l'économie de pays. Mm-hmm. Un pays qui n'a pas d'argent pour lui-même, encore si on arrête toutes les choses qu'on peut avoir par
le commerce ou les importations, l'exportation.
Tout a été... Avant, c'était tout illégal. Là actuellement, ok, avec illégal déjà, on avait un peu source pour notre pays aussi. Avec le fermeture et changement dans région, ça impactait encore les personnes. À peu près, si je me trompe pas, donc 90% de, ou même plus, de population afghane, ils vivent sous pauvreté. Mm-hmm. Donc c'est vraiment un impact très grave là actuellement. Et on peut aussi parler au niveau de l'impact qui a augmenté vis-à-vis des femmes.
C'est ce que j'allais dire, parce que pas mal de femmes s'enfuyaient aussi via la frontière iranienne, la frontière pakistanaise. Et donc là, tout le monde est bloqué dans le pays. Des femmes et probablement des hommes aussi, mais
C'est ça.
Les gens sont coincés.
Bien sûr, parce qu'avant, le gouvernement il a dit que peut-être on pourra avoir une stratégie en disant que, OK, on va ouvrir... école dans quelques années, dans quelques mois, il avait une petite porte qui était déjà mise en place, mais là actuellement cette porte elle est totalement fermée parce que avec les changements dans la région, ils n'ont pas de temps pour là actuellement régler les situations pour les femmes.
Alors justement, pour les personnes qui connaissent pas l'Afghanistan, qui savent pas ce qui s'y passe, l'Afghanistan, donc c'est où? Est-ce qu'on peut le situer? Donc tu as dit Iran, Iran-Pakistan d'un côté, Kazakhstan, ouais. Azerbaïdjan.
J'ai fait une petite chemin, comme on dit dans l'histoire.
C'est très radiophonique.
Oui, c'est vraiment... on est à combien frontières? Donc, on a frontières en ouest avec Iran. En est, on est avec Inde et Pakistan. On est aussi avec Centrale-Asie. Mm-hmm. Donc, c'est Tadjikistan, c'est Ouzbékistan. Et après, par ça, on peut passer les autres. On a aussi une petite frontière avec Chine.
Eh oui, une toute petite.
Toute petite frontière avec Chine. Donc, voilà, en gros, on est un entourage de tous ces pays-là. Et là, actuellement, tous ces pays sont en guerre.
Ah. Donc, comme ça, c'est bien. Ça va faciliter la stabilité.
Et, voilà.
et alors, donc, 2021, les talibans qui sont les talibans, comment on peut les présenter, des islamistes extrémistes, comment on peut les qualifier, les talibans?
Là, actuellement, en fait, islamiste, c'est un extrémiste, oui. Islamiste, c'est un peu différent au niveau de définition, ben, pas du tout. Mais extrémiste, oui, parce qu'en fait, c'est ni islam. Qu'est-ce qu'ils ont imposé ici, là, actuellement, ce qui se passe en Afghanistan. C'est bien évidemment extrême, parce qu'en fait, c'est eux qui ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et après, ils imposent sur les territoires.
Voilà. Enfin, bah, eux, ils parlent quand même au nom de la religion. Pour eux, c'est, on va dire que évidemment. Eux, c'est leur. Même si on est bien d'accord que tous les connaisseurs de l'islam disent qu'ils ne reconnaissent pas l'islam. Donc, le régime taliban s'est imposé en Afghanistan par la guerre, par coup d'État en 2021. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les femmes? Quelle est la vision des femmes des talibans?
Je vais changer ce mot parce que peut-être vis-à-vis de tout le monde, ils pensent que c'est coup d'État, mais ce n'est pas un coup d'État, c'est un agrément. C'était un agrément politique qui était mis en place déjà en avant. Donc je peux dire que ça a commencé en 2014 et ça a duré jusqu'à 2018. Et 2018, c'était fin, donc les agréments ont été signés entre eux. Donc ils ont entré.
Ah, agrément, alors c'est un anglicisme, tu veux dire un accord?
Un accord.
Un accord.
Ah, il n'y a aucun doute. Déjà, c'est mon avis. Il n'y a aucun doute que c'était un accord parce que j'ai vécu. J'étais là-bas, j'ai regardé les situations, changement de situation dans les organismes gouvernementaux, dans le secteur privé. Tous les changements, c'est vraiment prendre le papier, signer et lui donner. OK, là, actuellement, c'est moi. Et après, bien sûr, tu ne peux pas donner comme ça. Donc, il faut avoir une petite guerre à côté. Il faut faire jouer un peu pour le montrer que ça n'était pas agrément. On ne voulait pas donner pouvoir, mais...
Toi, tu penses que les choses étaient faites politiquement, étaient signées avec les responsables talibans?
Moi, personnellement, oui. Mmh. Oui, parce qu'à partir de 1991... quand il y avait changement dans l'Afghanistan, quand la guerre civile est terminée. Et donc, après, quand les talibans ont pris le pouvoir, déjà, c'était tout début de mettre place en Afghanistan. Et après, bien sûr, aux États-Unis, il a essayé en disant que, OK, je vais peut-être essayer avec la démocratie. Il a dépensé beaucoup d'argent.
Donc, en 2000-2001, l'intervention des
Exactement.
Américains.
Exactement. C'était vraiment un projet. Ils ont pensé, OK, comme ça, là, on a un moment, on peut peut-être profiter. Mais peut-être, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et en même temps, politiquement, ça n'était pas stable. Ils ont dépensé plus que nécessaire pour les guerres. Et donc, ils n'ont eu rien du tout parce que les côtés extrémisme, ils ont fonctionné très bien. À peu près moitié d'Afghanistan était sur contrôle du Taliban, déjà avec présence des États-Unis, et c'était accord.
En fait, il y avait Kaboul qui était une petite oasis démocratique, on va dire.
Même pas toutes les Kaboul. C'est justement quelques zones. Donc, Kaboul, il est partagé par 5 zones, 20 arrondissements. Et donc, dans ces 5 zones, déjà... Il y a tous les endroits qui sont contrôlés par les talibans. Par exemple, si on parle du district de Parman, il y avait une présence active des talibans. Et après, bien sûr, il y avait une présence de Mujahideen, mais c'est un peu différent parce qu'au niveau de Panchère et tout, on passe par là. Mais après, ce n'était pas dans les mains de... Comment on s'appelle République Afghanistan. République islamique Afghanistan, non. Ce n'était pas ça.
Alors, donc les talibans, tu dis, étaient là en sous-main depuis longtemps. 2021, en gros, donc, la communauté internationale découvre, en tout cas. Donc, ils prennent Kaboul le 15 août 2021, si ma mémoire est bonne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à partir de là pour tous les Afghans et particulièrement pour les femmes?
C'est vraiment largement grande situation à changer dans le pays. Surtout, le gros impact était sur les personnes qui avaient l'espoir d'avoir République islamique Afghanistan. C'est un grand impact sur ces personnes-là. Après, pour les femmes, bien sûr, il y avait changement. Pendant ces 20 ans, les femmes, elles ont eu la possibilité petit à petit. Ce n'était pas tout de suite grosse quantité des personnes qui sont entrées tout de suite dans l'école. Mais déjà, quand on allait dans les très loin, par exemple, le Paktia, c'est une province très loin. Donc, déjà, quand on rentre dans cette province-là, les gens, ils ont pensé, par exemple, de l'université, des masters, des doctorats. Donc, déjà, quand on a mis cette séminaire d'éducation, c'est perdu. C'est un grand perte qu'on a. Après, il y avait beaucoup d'universités qui ont mis en place, bien sûr, au niveau de qualité, ce n'était pas extraordinaire, mais quand même, c'est une petite étape. Donc, il y avait la possibilité. Moi-même, j'étais dans l'université. Et donc, quand j'étais dans l'université, ben, j'apprends les mêmes choses qu'on apprend ici. Avec le différent, bien sûr, qualité, ça, on est d'accord, mais quand même, il y avait petit espoir. Mais ça, c'est perdu.
Alors, pourquoi c'est perdu?
Bah, parce que, en fait, si tu veux avoir mon avis personnel, mon avis personnel, les femmes étaient vraiment un projet, toujours. Quand Russes, ils ont entré en Afghanistan, il y avait aussi projet pour les femmes.
Donc, les Russes sont arrivés en 79 en Afghanistan, voilà. 1979.
Déjà, à partir de là, il y avait projet pour les femmes.
Okay. C'est-à-dire émancipation des femmes.
Libérer les femmes, montrer les femmes, voilà, il faut sortir, il faut travailler, il faut avoir l'espoir libre. Ils ont créé les agences sécurité, il y avait beaucoup des femmes qui étaient intégrées là-bas. Et comme ça, petit à petit, il y avait ouverture vers la démocratie, pas démocratie, mais communisme à l'époque, mais OK, liberté. Mm-hmm. Après, tout de suite, il y avait Taliban. Mais il faut avoir quelque chose en commun. Donc, pour les communautés afghanes, pour la plupart de communautés afghanes, ils pensent que femmes, ils ont vraiment, il faut rester à la maison.
Oui, ça, c'est la mentalité afghane, on va dire, traditionnelle.
Exactement. Et donc, pour garder toutes les Afghans qui ont eu déjà cette mentalité, il faut donner quelque chose. Encore, femmes, ça joue très bien dans ce rôle-là. Après, il y avait projet de 20 ans pour démocratie. Ok, pour la démocratie, la liberté de femmes, égalité de femmes, c'est un gros projet.
Alors, on va juste faire une petite explication historique. Donc, les Russes sont arrivés en 1979 en Russie. Et donc, il y a eu un soulèvement. Les personnes qu'on appelait les Moudjahidines du peuple, c'est-à-dire alors j'allais dire milices, c'est pas ça, mais des résistants.
Oui.
Il y avait des poches de résistance un petit peu partout en Afghanistan qui se sont soulevées contre l'envahisseur russe, qu'ils ont eux considéré comme l'envahisseur russe. Et donc ça a fini en guerre civile. Les Russes ont fini par partir, et une guerre civile entre les différentes factions des Moudjahidines du peuple, et chacun avec ce qu'on a appelé après des seigneurs de guerre, où chacun avait son territoire. Il y avait Herat, il y avait Kandahar, et puis celui que nous on connaît très très bien en France, c'était Massoud, qui lui était dans la vallée du Panchir. Et donc ça, jusque dans les années 2000 en fait, jusqu'aux années 90.
Ça c'est en 90 déjà, parce que 94, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas très bonne au niveau de mémoriser les dates précises, mais à partir de le moment où les Moudjahidines sont tombés, et donc c'est les talibans qui a pris le pouvoir.
C'est-à-dire les cendres de cette guerre civile, naît les talibans, qui étaient une force.
Exactement. Historiquement, on dit que toutes les personnes qui étaient déménagées, ou j'ai dit réfugiées, en 1989, donc c'est en partie quand les Russes ils commençaient de partir. C'est à partir de là, il y a beaucoup, quand la guerre civile a commencé, mis place en Afghanistan. Donc comme ça, beaucoup des Afghans sont partis vers Pakistan. Donc normalement, historiquement, on dit que les Afghans qui sont partis à cette période, ils ont été enfants, tous les garçons, ils ont entré dans les madrassas.
Les écoles coraniques.
Voilà. Mais écoles coraniques, voilà. Ici aussi, parce que je connais très bien l'islam, donc quand on nous dit école coranique, il y a deux différences entre école coranique et madrasa pour moi personnellement. Parce que dans l'école coranique, tu vas, tu apprends le Coran. Mais quand tu rentres dans le madrasa, donc ici, c'est vraiment créer un centre religieux, idéologiquement, pour préparer les gens comme ça, à lui donner les informations qu'il veut.
Et donc, un peu dresser, quoi, faire des bons petits soldats islamistes, islamiques, je ne sais pas comment on peut dire.
Mais pendant 20 ans, on a vu les attaques suicides, c'était fait par les garçons et mineurs aussi. Donc, il y avait beaucoup d'explosions qui étaient organisées par les garçons. Et donc, dans l'Afghanistan, à partir de 89, toutes les petites garçons dans les villages, il y avait un gros recrutement par les talibans. Donc, ils ont récupéré soldats gratuits par force.
De la chair à canon. On a appelé ça de la chair à canon, nous, en France, pendant les guerres.
Mmh. Et donc, ils ont commencé à... ils ont créé leur... Là, actuellement, vous voyez pourquoi ils ont dit qu'on est très fort. Bien évidemment, dans chaque province, dans chaque district, ils ont déjà créé leur petite armée, je peux dire. Parce que sans ça, il n'y a pas de possibilité. On a discuté récemment avec une journaliste, il m'a posé les questions, comment les talibans peuvent avoir les sous ? Ça vient de où ? Mais j'ai dit, quand tu rentres dans les provinces et districts d'Afghanistan, tu peux trouver les terres qu'ils ont, drogue.
Oui, voilà. grosse culture d'opium.
Bah oui.
Ça, c'était... Est-ce qu'il avait été interdit, d'ailleurs ? La culture d'opium avait été interdite,
Interdit.
Officiellement, interdit. Voilà, c'est ça.
Comme partout, théoriquement.
Mais c'est ça qui a... Et c'est là que c'est intéressant, c'est ce paradoxe, c'est-à-dire des gens qui se réclament de Dieu et donc de la perfection sur Terre, si on les écoute, mais qui, eux, vivent du trafic de drogue et peut-être même du trafic d'armes, on ne sait pas trop.
Trafic d'armes, les enfants, drogue... Moi-même, j'ai commencé, quand j'ai travaillé, c'était 2020, j'ai trouvé que beaucoup des garçons petits qui font des
allers-retours
à Pakistan et qui amènent les drogues dans son sac à dos, parce qu'il n'y a pas de contrôle pour les enfants, surtout. Et donc
ils avaient des mules, on appelle ça des mules, mais tout petit, tout jeune.
Oui, tout le monde, les bouches étaient fermées, donc personne il pas parlé. J'ai parlé de période de République en Afghanistan. Donc c'est ça qu'on a dans le frontier de Chaque, dans le frontier de l'Iran, dans le frontier de Pakistan, on trouve les choses. C'est le sou pour le gouvernement.
Alors, et donc ce régime taliban s'installe, donc les femmes perdent beaucoup de leurs droits, et en effet avec les Américains qui arrivent, alors suite à la traque de Ben Laden, parce que c'est pour ça qu'ils sont arrivés, qu'ils ont mis le pied là-bas, et donc pendant 20 ans, et c'est vrai que nous, vu de l'Occident, on se disait, waouh, ça y est, c'est la liberté pour les femmes, il y a eu beaucoup, beaucoup de reportages sur cette liberté acquise, et sauf que donc les talibans reviennent là, 2021. Et est-ce que ça a été pire qu'avant ? Est-ce que ce régime-là, depuis 2021, parce qu'on entend des trucs affreux que je vais te laisser expliquer sur la condition de vie des femmes, est-ce que c'est pire maintenant que ça l'était avant ?
C'est différent. Et pourquoi c'est différent ? Parce qu'à l'époque, l'ancien régime était pire parce que politique régionale et situation mondiale étaient comme ça. Pas parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'attention pour cette partie-là. Mais là, c'est différent. Pire dans l'époque aujourd'hui. C'était pire avant, c'était pire aujourd'hui. Donc, il faut garder les situations mondiales et régionales tout le temps.
C'est pire, tu veux dire que comme les autres pays se sont libéralisés, du coup, cet enfermement afghan est d'autant plus violent.
Voilà, exactement. Parce qu'on a toujours les évaluations au niveau de liberté. Là, actuellement, on a beaucoup de changements. En 1994, on n'avait pas assez AI qui fonctionne aujourd'hui. On n'avait pas ce réseau social qui fonctionne aujourd'hui. Le Internet, les possibilités, tout, ça n'existait pas. Là, il faut contrôler tout ça. Donc, en Afghanistan, bien sûr, il y a un contrôle strict vis-à-vis de toutes les utilisations, mais quand même, il n'arrive pas de contrôler tout parce que c'est pas dans leur capacité pour le moment. Donc, pour le moment, oui, on est pire, mais pour cette situation-là. On ne peut pas comparer les deux.
Parce que quand même, ce qu'il faut savoir, donc, les femmes en Afghanistan, elles n'ont pas le droit de marcher à visage découvert dans la rue, c'est ça ? Elles doivent être intégralement voilées ?
Là, actuellement, je vais te parler de vraies situations en Afghanistan. Il y a une situation qu'on attend dans les médias, il y a les vraies situations en Afghanistan. Donc, oui, c'est interdit d'aller à l'école, mais il existe les écoles privées. C'est interdit d'aller à l'université, il existe les universités qui travaillent en cachette. Les femmes, actuellement, dans la majorité des endroits, ils ont interdit de faire le travail. Mais après, ça existe les commerces pour les femmes. Là, actuellement, j'ai une femme qui travaille là actuellement comme commerçant, qui amène les produits de l'Iran et qui vend ici en Afghanistan.
Alors, comment elle fait ?
Par d'accord de talibans, donc.
C'est-à-dire que certaines femmes obtiennent des accords quand même.
Exactement. Déjà, pour la radio, par exemple, dans l'Est de l'Afghanistan, il y a une journaliste qui travaille toutes les journées, actif avec certains membres de son équipe qui travaillent en radio actuellement, mais par d'accord de taliban. Donc ça, c'est un changement. Par exemple, j'ai un témoignage qu'on va écouter après. C'est un témoignage d'une fille de Herat qui habite actuellement là-bas. Elle dit au niveau de interdiction, par exemple, voile et tout ça, c'est interdit toujours. Tu ne peux pas sortir sans avoir ton gardien.
Toujours un homme, en fait, aux côtés de la femme, c'est ça?
Malheureusement, c'est ça. Et après, on va discuter aussi par rapport à cette... On va écouter les témoignages de situation actuelle et après, on va discuter comment ça se passe.
Absolument. Eh bien, on écoute ce témoignage.
باز خواهشان به خاطر از این ملا صاحبا که میگه اگه میگفتی برد معلومات بتم اینا از وقتی که آمدن تا حال آباتی بسیار کردن کابل هرات بسیار آباتی کردن به حساب دوکانا و اینا بسیار نگاه میکنن که مردم قیمت فروشی نکنن مردم آرام خوری چیزا نکنه این گپا را بسیار فکر خود میگیرن باز به حساب زنا هست زنای بیچاره به خانه قید است اصلا
Encore, donc, cette fille, il parle de situation. Il a dit qu'au niveau de construction de ville, de Kaboul, de Herat, pour montrer qu'on est là, actif, on fait quelque chose, ils sont vraiment très actifs. Ils ont reconstruit beaucoup de choses. Par exemple, il y avait un grand cimetière en Afghanistan. Ils ont détruit tout ça. Ils ont créé un autre endroit pour vivre, pour avoir les marchés. Ils ont récupéré beaucoup de personnes qui ont été dans les rues, qui avaient une marchandise, qui vendaient dans les rues, ils ont préparé une marché privé pour eux. Ils ont fait ça pour leur montrer que oui, pour avoir plus de possibilités d'argent de l'Ouest et de tous les pays qui donnent.
Pour être soutenu, c'est une façade en fait, tu dis.
C'est ça. Parce qu'en fait, si tu fais rien, après, tu vas avoir rien aussi. Donc, il faut montrer. Donc, surtout, économiquement, au niveau de commerce, et aussi, cette fille parle qu'ils ont fait un contrôle très strict vis-à-vis de vendre. Donc, les prix doivent être fixés par le gouvernement, les choses comme ça. Mais, dans les autres côtés, c'est un côté femme qui reste. Cette fille qu'on a discutée, elle s'appelle Nadia Hashimi. J'ai changé son prénom parce que c'est strictement interdit de parler.
Ce qu'elle a fait, c'est très dangereux.
C'est vraiment très dangereux. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait à la maison ? Il travaille dans la maison pour elle-même. Il a créé un atelier de couturier, donc les femmes qui viennent ici, mais en cachette. Comme je t'ai dit avant, donc oui, il y avait interdiction de l'école, mais après les gens, ils ont commencé à faire les choses petit à petit ici en cachette. C'est une partie cachette. Après, il y a une autre fille qui travaille vraiment avec le d'accord du taliban. Donc, elle dit que, par exemple, sortie de la maison, c'est interdit, sans avoir gardien. Aller faire ses courses, c'est toujours interdit. Je parle de mars 2026, donc c'est toujours interdit. Tu ne peux pas y aller avec les vêtements que tu veux. En fait, il faut vraiment avoir une grande foulard. C'est vraiment, je ne sais pas, certains gens, peut-être, ils les ont vus dans l'Iran. Ils ont une foulard très grand parce que Herat, c'est à côté Iran. Donc, il y a culturellement, il y a beaucoup de choses qui se rassemblent. Donc, elle est obligée de faire tout ça. Et en plus, il a dit que là, actuellement, quand je travaille en cachette. Si les talibans trouvent que je travaille, même pour les femmes, il va fermer l'atelier.
C'est donc, c'est-à-dire qu'il y a un accord pour le commerce, pour faire, en gros, pour aller chercher des denrées en Iran, finalement, ouais, parce que ouais, ça les arrange. Ouais. Mais par contre, pour l'atelier clandestin, ouais, là, non. Mais alors, du coup, elles font comment pour s'habiller, les femmes afghanes, si on n'a pas le droit de leur faire des vêtements ?
Voilà. C'est ça, les questions qu'on me pose. Mais après, parce que premier régime de taliban donnait beaucoup plus, vous voyez, c'est mauvaise chose, mais on a appris comment vivre en cachette. Malheureusement, c'est pas bonne chose, mais pour le survivre dans un endroit strict, ils ont appris comment faire. Donc déjà, dans une côté, il y a beaucoup d'interdictions. Dans les autres côtés, les humains, ils font...
Ils se débrouillent. Donc, de plus en plus agiles,
voilà,
pour trouver des... Ouais. Comment vivre, en fait, tout simplement.
C'était toujours.
Parce que ce qui a été très, très choquant pour nous, pour toute la communauté internationale, mmh, c'est de savoir que les femmes n'avaient plus le droit de se parler, mmh, et qu'on ne devait plus les voir par la fenêtre. Je crois qu'il y avait cette, ouais, histoire-là. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un,
oui,
peu ?
Oui, je vais t'expliquer ça aussi en concept culturel. Déjà, pendant la période de démocratie en Afghanistan, c'était interdit, en fait. Ce n'est pas mis en place là, actuellement, aujourd'hui. En fait, normalement, quand on était dans la maison, par exemple, moi, j'étais une femme, on peut dire, libre. en Afghanistan, ce n'est pas la vraie liberté. Mais par contre, notre mur de notre maison, il était très, très haut. Et en plus, quand on construit notre fenêtre, cette fenêtre doit être vraiment cachée. Ça vous dit, le voisin devant, il ne pouvait pas voir notre maison. Et femme, par exemple, si tu laves tes vêtements, bah, tu as terrasse dans ta maison, tu vas y aller mettre tes vêtements là-bas. Bah, tu vas construire le mur le plus haut possible parce que si tu vas y entrer dans la terrasse, bah, c'est les voisins qui ne doivent pas t'avoir.
Les voisins ne doivent pas voir la femme. Et c'est pour les femmes ou c'est pour les hommes aussi?
C'est pour les femmes. Seulement pour les femmes. Et en plus, c'est aussi une expérience personnelle parce que je suis quelqu'un qui parle très fort. Tu m'as connu, tu dis ça. Et en plus, j'ai ri aussi. Donc, c'est mon habitude. Je suis toujours avec les souris. C'est interdit aussi.
De rire ou de sourire?
Les deux.
Ah, les femmes n'ont pas le droit de sourire?
Sourire, ça va parce que c'est pas...
C'est la politesse?
C'est pas... Tu attends pas la voix. Oui, bah, tu peux pas sourire.
C'est-à-dire que tu veux dire qu'on ne doit pas entendre la voix?
Exactement.
Et pourquoi? Je trouve pas le terme, mais qu'est-ce qui entraîne une telle décision?
C'est déclencheur sexuel. J'ai dit, c'est sidus.
Ah, ça, c'est la séduction.
Voilà, c'est séduction.
Une femme qui parle séduit.
Exact. Donc, une femme, parce qu'il y a une voix très assez douce. Donc, tu séduis un homme. Ou une femme qui rit, c'est aussi une séduction. Et en plus, si tu fais ça à l'extérieur, bah, tout de suite, les hommes, ils vont penser que voilà.
Il est d'accord. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est est-ce que c'est la femme qui séduit ou est-ce que c'est l'homme qui saute sur tout ce qui bouge?
Les deux.
Est-ce que réellement la femme, quand elle parle, est-ce qu'elle séduit? Est-ce que le fait de parler à un autre homme est un interdit en soi?
Quand j'ai dit les deux, parce que tu vois, c'est pour séduire, on a utilisé ça depuis 10 années. Donc les femmes qui sont intéressées par quelqu'un, j'ai dit, ok, il va avoir un peu voix, un peu d'eux, c'est féminisme, c'est trop féminin, et j'ai dit que c'est normal en fait, c'est naturel. Naturellement, si on adore quelqu'un, on peut faire ça en séduction, vraiment. Mmh. Mais après, pour les hommes, doit être séduire par tout et n'importe où, si une femme il parle justement parce qu'il est ouvert vis-à-vis des hommes, ça ne veut pas dire qu'il t'a séduire. Donc, ça, bien sûr,
voilà.
C'est les
hommes. Parce que toi, tu as pu le constater en France, on se parle entre hommes et femmes, ça ne veut pas dire qu'on se séduit.
Ah non, bien sûr. Et en plus, on parle comme on veut, tranquillement, doux, notre voix. Et en plus, c'est rien. Oui, c'est manquement d'éducation, en fait. Parce qu'on a donné, par exemple, une petite garçon afghan, depuis enfance, il attend ça. Il dit que voilà, si on regarde une femme qui fait ça, bah, voilà, c'est pour ça.
Mais alors, ça veut dire que concrètement, la femme, du coup, elle ne peut pas sortir de chez elle. Elle est mariée, elle reste chez elle. Parce que ce qu'on a entendu aussi, c'est que même elles avaient interdiction de parler entre elles, désormais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu as pu entendre?
Ça, c'est en fait entre eux. Si Midia, il a dit, c'est surtout pourquoi Taliban interdit ces jours d'atelier. Parce que beaucoup des activistes femmes, ils utilisent cet atelier pour rassembler. C'est surtout pour ça.
D'accord.
Après, parce que c'est un régime qui interdit.
Ouais. Oui, parce que ce n'est pas le fait de parler, c'est le fait de se rassembler.
Exactement.
Qui leur fait peur.
Bien sûr, parce que toutes les femmes, elles vont partager les avis. Donc, par exemple, si une femme comme moi et toi qui rentre dans cet atelier, bien sûr, on va donner notre avis, on va lui discuter, ça va impacter les autres. Et donc, il veut éviter tout ça.
Alors, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de reprendre notre discussion et peut-être on parlera des écoles.
Bien sûr. Et en plus, après musique, on va aussi discuter par rapport aux universités en cachette et les enseignants qui donnent les cours.
Absolument. Mmh. Est-ce que tu peux nous présenter ton choix musical?
Oui, c'est c'est une chanson en langue pachto et cette fille s'appelle Mojda Jamalzada, qui habite actuellement en Canada. Et donc, c'est vraiment une chanson, je peux dire, amour d'une femme pour un homme aussi, pour lui montrer qu'une amour pure, ça existe aussi.
On écoute.
C'est séduction. De femmes sur Studio Zeuf. Bienvenue encore sur les Studio Zeuf avec Lisa Karimi et Alice sur la thématique de l'Afghanistan.
Et ouais, on parle d'Afghanistan. Et donc, Lisa, tu nous disais que donc, l'éducation est interdite pour les femmes. Les hommes, les jeunes hommes, ils ont le droit de continuer à aller à l'université, à l'école ?
Vous savez que vraiment, j'étais remerciée pour poser cette question parce qu'en fait, je trouve qu'on a parlé beaucoup par rapport à les femmes. J'adore, c'est mon côté féminin. Mais par contre, les hommes, ils ont aussi dans les souffrances en Afghanistan, surtout, comme tu dis, les gens. Oui, ils ont droit d'y aller en université, en école. Mais par contre, là-bas, si tu travailles pas, si tu gagnes pas d'argent, tu peux pas faire ça. Donc déjà, les garçons après quatrième classe, donc c'est les parents qui disent que là, actuellement, avec l'école suffisante, va travailler, gagner argent. Il y a beaucoup de garçons qui viennent ici en Europe, que prochainement, j'aimerais bien discuter dans notre prochaine émission, peut-être au prochain, par rapport à les garçons jeunes afghans qui viennent ici, et les filles aussi, et dans quelle situation ils vivent en France. Et donc, voilà.
Oui, parce que moi, des jeunes hommes afghans m'ont dit oui, les talibans, ils sont mauvais pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Ils m'ont clairement dit que c'est tout le monde et c'est difficile pour tout le monde.
Hein. Exactement. C'est vraiment là. Par exemple, un homme. Déjà, on dit que pour un homme, c'est vraiment. Comment on dit, c'est quelqu'un, il vient à contrôler. Ça lui gêne. Déjà, biologiquement, il est quelqu'un qui aime bien être libre, comme une femme aussi, c'est comme humain, mais un homme aussi. Et donc, là. Un homme de 18 ans, 16 ans, et il y a beaucoup de choses. Tu veux habiller comme tu veux faire les choses comme tu veux, tu vas écouter les musiques, tu as un peu l'imagination, tu vas faire tout, quoi. Il n'y a pas de droit.
Et ils doivent correspondre à un certain modèle,
exactement.
J'imagine.
Oui, c'est ça. Certains modèles très stricts. Parce que dans notre espoir, il y a certains qui, naturellement, ils aiment bien partie vers la spiritualité, vers la religion, vers les choses comme ça. Mais il y a les autres personnes qui, naturellement, ils veulent vivre différemment. On s'appelle ça rebelle dans chaque société qui existe. Bah, pour les rebelles, ça, il n'y a aucune place. Donc, il faut vraiment éviter de faire ce que tu veux.
Pas de vague.
Mmh. Ouais.
Et donc, on parlait d'éducation. Donc, ouais. Tu nous as dit au début de l'émission que... alors, il y a des écoles privées. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il y a des écoles privées qui sont autorisées?
Mmh. C'est pas autorisé, mais les talibans sont au courant de ça.
Mmh.
Déjà, il y a école privée, il y a les madrasas pour les femmes, mais sur le strict contrôle du taliban. Les écoles qui sont pas contrôlées par les talibans, c'est les écoles qui existent dans les certains quartiers, et surtout c'est pour les personnes qui ont possibilité d'avoir le réseau. Parce qu'il n'y a pas de possibilité dans tout. Et surtout, c'est aussi division de communautés en Afghanistan. Par exemple, école privée dans la communauté pachton, c'est rare. Dans la communauté tajik, c'est moyen. Dans la communauté hazara, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que surtout, mentalité de chaque communauté est différente. Donc voilà, école privée, ça existe, mais dans différents niveaux, je peux dire.
Et donc... École privée aussi pour les femmes.
C'est vraiment pour les femmes.
Pour les femmes. Les hommes vont dans les écoles publiques.
Exactement.
D'accord.
Oui,
okay.
Oui. Tu as bien parlé de l'école, l'éducation. Là, mois de mars, avec le Navroz, c'est une nouvelle année perse.
Oui, on en a entendu parler. On a beaucoup entendu parler du nouvel an iranien, mais en fait, c'est perse. Donc.
C'est perse, oui. Beaucoup des Afghans, surtout les ethnies tadjiques et aussi les Centrales-Asie, ils ont fait cette fête aussi. Et donc, avec cette nouvelle année, c'est début de année scolaire aussi en Afghanistan. Et beaucoup de personnes, les femmes, moitié de la population, ils ont interdiction d'y aller.
Alors pourquoi?
C'est une bonne question. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches. Pourquoi seulement femmes? Mais après, je trouvais que ce n'est pas seulement femmes. C'est vraiment un système pour éviter... À réfléchir, analyser, penser autrement, avoir différentes éducations, être peur. Donc, pour garder la société à l'intérieur dans peur, il faut éviter
l'ouverture.
L'ouverture, vraiment, de avoir capacité de penser. Et donc, quand tu vas dans l'école, bien sûr, tu vas lire philosophie, tu vas lire l'histoire, géographie, tout. Tu ne peux pas éviter toutes les matières. Ben, après, il faut éviter le système. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il interdit les systèmes. Soit dans les autres pays occidentaux ou dans les autres, on regarde qu'ils ont créé un système parce qu'ils avaient la capacité, ils ont bien donné les éducations qu'ils voulaient mettre, mais Afghanistan, il n'est pas prêt là actuellement. Pourquoi il dit toujours jusqu'à prochain ordre? Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de créer un système. Parce que tu ne peux pas, avec chaque changement de régime, particulièrement quand tu rentres dans l'histoire de éducation en Afghanistan, avec changement de chaque régime, il y a changement de système scolaire, malheureusement.
D'accord.
Et pour changement de système scolaire dans le pays pauvre comme Afghanistan, il faut avoir les matériels, il faut avoir les enseignements différents, il faut donner tout ça. Et là, actuellement, les talibans, ils n'ont pas la capacité de faire ça dans 2 jours.
Alors, changement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils... ils ont cassé tout ce qui avait été fait entre 2001 et 2021, c'est ça?
Pas tout, mais généralement, par exemple, il y avait quelques matières, par exemple, dans lesquelles ils ont parlé de République islamique, Afghanistan, et dans chaque livre, c'était écrit. Et donc, il faut élever tout ça, il faut donner la Imara islamique.
Maintenant, c'est un émirat islamique, c'est plus une république islamique, en fait, c'est ça?
Non, bien sûr, non. Donc après, dans les livres de 20 ans, c'était tout au niveau de république, au niveau de président, au niveau d'élection. On avait un livre qui donnait les éducations sociales. Et dans cette éducation, par exemple, ils ont parlé de liberté, l'égalité entre hommes et femmes, ils ont parlé, parce que c'était un différent système. Là,
on efface tout ça.
Ouais.
Et alors, tu nous as parlé d'école cachée,
ouais.
Ce qui relève d'un courage assez dingue de continuer à, pour les jeunes filles d'aller à l'école et pour les enseignants.
Ouais.
Donc, je crois que tu as un témoignage nous faire écouter. Est-ce que tu peux nous
expliquer?
C'est
une professeure aussi qui là, actuellement, dans le cours à les filles. On va écouter ce témoignage. Alors, et on va écouter de qu'est-ce qu'il a parlé en fait.
On écoute.
Salam, ma az Kabul ba shoma sohbat mikonim. Kabul ki hast amma zakhmi hast. Hamatur ki kull Afghanistan zakhmi ast. Ma mardome ki dar Afghanistan zindagi mikonim dar vaziyat mawaji hastim ki misha goft tab'id dakhili. تبعید داخلی به این معنا که روز بروز امید به زندگی، امید به آینده و توان برای مشارکت برای تغییر جامعه و وضعیت مردم گرفته میشه. این در حال است که من دقیقا کابل و افغانستان را زندگی را یاد میارم که زن و مرد با شور و اشتیاق کار میکرد. کوچه ها و پس کوچه های شهر افغانستان پر از متعلم و محصل دختر و پسری بود که با شور و اشتیاق می رفتند تا اینکه بیاموزند، دانش فرا بگیرند، خود توانمند بسازند و برای تغییر جامعه خود کار کنند. اما متاسفانه بعد از تحول سیاسی که در افغانستان اتفاق افتید، روز بروز فضاهای عمومی دچار یأس و ناامیدی میشه و روز به روز زندگی مردم با محدودیت مواجه میشه.
Alors, on ne peut pas écouter ce témoignage en intégralité, mais Lisa, est-ce que tu peux nous dire ce que
donc,
nous traduire
c'est un professeur de l'université qui dit que là, actuellement, je parle avec vous de Kaboul. C'est un Kaboul qui est blessé, qui a actuellement perdu leur espoir. Il dit que je rappelle les journées quand toutes les universités et écoles étaient remplies avec les étudiants. C'était étudiants filles, étudiants garçons, tous avaient l'espoir, ils ont voulu changement, ils avaient envie pour participer dans la vie quotidienne et politique de leur pays. Et là, actuellement, tout l'espoir est perdu. Il a dit que là, actuellement, je me sens dans une condition très fermée, sans espoir, et en plus, aucune possibilité de mettre un petit changement dans mon propre pays. Ça vous dit, mon voix est totalement silent. Mmh.
Quand il témoigne comme ça, cet homme, est-ce qu'il, tu l'as appelé, est-ce qu'il prend un danger, est-ce qu'il prend un risque en témoignant
bien
comme
sûr,
ça?
Bien sûr, je lui ai demandé quand même, parce que c'est un autre rôle de sécuriser toutes les personnes avec qui on parle, mais oui, il a dit que je sais que je risque ma vie, mais je vais continuer parce que c'est lui-même aussi qui donne les cours privés. Il sait très bien. Et en plus, par rapport à lui, pour vous dire que c'est quelqu'un qui avait un bon rôle avant dans la République. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il avait cet espoir, cette pensée. Et là, il ne peut pas lui mettre à côté.
Et est-ce qu'il pense à s'exiler, à quitter l'Afghanistan?
Oui. Oui, c'est ça, comme tout le monde en fait. Parce que là actuellement quand il parle, il dit que j'ai perdu l'espoir. Mm. Quand il dit que j'ai perdu l'espoir, ça veut dire que je ne peux rien faire là actuellement. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit que oui, on avait une discussion par rapport à ça. Bien sûr, il aimerait continuer son travail, mais en distance.
C'est-à-dire qu'il n'y a même plus l'espoir que ça change en fait, ouais. Prêt à partir
Là oui. Là, je pense qu'avant, tout le monde pensait que okay, les talibans vont rester peut-être 5 ans. Après 5 ans, comme l'ancien régime, ça va terminer. Mais non, là, actuellement, avec le changement politique dans la région et mondiale, tout le monde, ils ont bien compris. Surtout les personnes qui avaient derrière éducation. Et
qui socialiste. Connaissent l'histoire.
Ouais.
Et alors, justement... Quel est le regard, selon toi, de la communauté internationale? Alors, plutôt, quel est ton jugement? On a appris, ça fait quelques mois, hein, qu'il en est question que les demandeurs d'asile afghans en Allemagne étaient renvoyés en Allemagne. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que c'est un sujet que tu connais un petit peu? Parce que ouais. Considérer que l'Allemagne est l'Afghanistan est un pays sûr, c'est quand même un petit peu étonnant.
Oui, je connais très bien cette situation et en plus parce que tu sais bien que c'est mon lieu de travail et je vais te donner aussi un autre changement de politique, pas seulement en Allemagne, en France. Je t'ai dit, là actuellement, depuis 2026, donc 2025, ils ont commencé. 2026, c'est strictement un article, la loi. Ça veut dire que là, France a changé son... politique immigratoire. Mm-hmm. Là, ils ont concentré vers l'intégration.
Mm-hmm.
Ça veut dire quoi? Avant, il y avait possibilité de donner asile à personne qui vient d'Afghanistan. Là, ils ont mis les règles très, très strictes. Même les personnes qui vont entrer ici, déjà, c'est très difficile d'avoir le papier, la protection.
La protection.
Et après, c'est encore difficile de continuer à avoir ton deuxième carte. Pourquoi? Parce qu'il faut passer un examen civique. C'est un... Et après, au niveau de la langue, que tu connais très bien. Que...
Absolument. C'est-à-dire que même pour les réfugiés, oui. il y a ces contraintes-là. Parce que c'est vrai qu'on savait depuis quelques années que les Afghans, globalement, obtenaient leur statut de réfugié. Je ne dis pas que c'était facile, mais on avait... moins peur. C'est une population que je côtoie un petit peu et on se disait, bon, vous êtes afghan, normalement, ça va passer. Sachant que tout le monde n'avait pas le statut de réfugié, certains ont la protection subsidiaire, c'est que 4 ans.
Voilà.
Et ce que tu me dis là, en fait, c'est que maintenant, les Afghans sont considérés comme toute personne qui demande un visa et donc doivent répondre aux mêmes exigences de linguistique et d'examen civique.
Exactement, c'est totalement changé pour les Afghans. Et en plus... comme je dis, c'est vraiment une concentration vers l'intégration. Et là, actuellement, intégrer pour les Afghans, c'est très difficile, je trouve.
Alors, pourquoi
En fait, il y a différents Afghans. Pour les certains, c'est facile. Pour beaucoup des Afghans, c'est difficile parce que, en fait, majorité, oui, si je ne me trompe pas, vient pour les raisons économiques. Quand ils rentrent pour les raisons économiques, c'est un peu difficile de s'intégrer parce que dans ta cerveau, tu dis que je vais travailler et c'est tout. Donc, après, tu rentres dans la communauté afghane. Et communauté afghane, il joue encore un rôle. Si tu rentres dans le bon communauté afghane, tu es très chouette. Tu vas être intégré, tu vas avoir les possibilités de faire des études, tout. Mais si tu rentres dans le... communauté qui sont vraiment là pour t'amener vers le travail noir, c'est terminé. Ta vie avec l'intégration ici française, c'est terminé.
C'est-à-dire que tu dis qu'il y a un réseau, afghan de travail au noir.
Et, grand réseau, surtout dans les grands... Ce n'est pas les Afghans sûrement, j'ai dit que c'est dans toutes les communautés. Toutes les réfugiés, immigrants qui rentrent à France, par exemple, chaque Pakistanais qui rentre ici à France, souvent quand je fais entretien avec eux, qu'est-ce qu'il dit? Je veux vraiment l'hébergement en Paris. Si vous avez hébergement à Paris ou en région parisienne, oui, j'accepte. Sinon, je refuse. Il n'y a pas de... Et tout de suite, les agents ou filles, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a pas d'hébergement ici à Paris. C'est comme vous voulez. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la communauté pakistanaise. Il n'apprend jamais la langue française. Jamais. Vraiment 10 ans, 15 ans, il vit comme ça. Il travaille noir. Pourquoi il travaille noir? Parce que c'est facile. C'est dangereux. Qu'ils ne comprennent pas, c'est contre la loi qu'ils ne comprennent pas, c'est vraiment moins payant qu'ils ne comprennent pas, mais en même temps, il dit que voilà, je ne paye pas l'impôt. Donc, et après, les grands marchés, on peut dire dans toutes les communautés, à peu près dans tous les pays africains, on peut trouver, dans les arabes, on peut trouver, les turcs, on peut trouver partout.
Au-delà de cette intégration, est-ce que les femmes afghanes qui sont en France parviennent à s'émanciper facilement? Est-ce que c'est facile quand on change de pays?
Malheureusement, les femmes c'est facile pour femmes afghanes. Il est une capacité extraordinaire à s'adapter. J'ai vu beaucoup de femmes. Récemment, il y a une jeune femme qui est venue d'Afghanistan. Il a un espoir assez grand. Il aime bien s'intégrer. Il aime bien apprendre. Il est vraiment ouvert. Mais après, il y a interdiction ici pour elle en France par sa famille.
C'est-à-dire qu'il y a le poids de la communauté qui est là.
C'est ça que ça me dérange. Parfois, j'ai dit, un jour, quand je vais avoir une possibilité, je vais créer un organisme dans lequel je peux accueillir ces femmes-là pour lui donner un peu d'espoir, vraiment privé pour les femmes, parce que je connais très bien. Mais c'est très difficile. Donc, une femme qui vient, c'est trop facile pour elle si tu laisses. Mais malheureusement, il n'y a pas de cette possibilité-là.
Et je voulais revenir aussi sur... le soutien de la communauté internationale, parce que donc on parlait de ce régime taliban qui est drôlement bien en place, qui, à partir du moment où l'Allemagne renvoie les demandeurs d'asile là-bas, c'est qu'ils considèrent que c'est un pays sûr. Il était question de normaliser. Alors, il faut savoir que la France n'a pas d'ambassade en Afghanistan, c'est-à-dire que donc ils ne reconnaissent pas le régime taliban. Il a été question à un moment de normaliser les rapports avec l'Afghanistan. Tu me parlais, quand on a préparé cette émission, de l'avenue de Ahmad Massoud, donc le fils d'Ahmad Shah Massoud, qui était en France récemment. Est-ce que tu peux me raconter? Donc, on sait que quand Ahmad Shah Massoud venait en France, il avait été reçu au Parlement européen, il était reçu par des politiques français, il était devenu le symbole, c'était un peu le Che Guevara. De l'Afghanistan, quelqu'un en plus qui passait pour quelqu'un de libéral, donc qui suscite énormément d'admiration en France. Voilà, qu'en est-il de son fils ?
Je vais aussi répondre un peu au niveau de question de l'Allemagne, parce que tu Bien as sûr. Proposé deux fois cette, j'ai oublié. En fait, au niveau de l'Allemagne, fais attention, quand les Allemands, quand ils ont évacué les Afghans, leur statut, ce n'était pas statut réfugié comme ici en France. Déjà, à l'époque, ils ont donné les papiers de 3 ans.
Ah, ils n'étaient pas réfugiés, d'accord.
Non, c'est pour ça, les personnes qui sont venues en Allemagne, ils pouvaient retourner en Afghanistan. C'est comme un peu au niveau comme statut pour les Ukrainiens. C'était différent.
C'était politique. Temporaire.
C'est ça. Et après, pour avoir les documents un peu stables, il faut continuer à vivre. Voilà, au niveau de l'intégration et choses, il y a les éléments. C'est déjà ça. Pour la France, c'était différent parce que tout de suite, c'était soit statut réfugié, soit subsidiaire.
Donc, c'est 4 ans ou 10 ans déjà.
Voilà, ces politiques étaient différentes. Là, actuellement, bien sûr, il est mis en place par la France aussi le retour volontaire. C'est vraiment conseillé et toutes les assistantes sociales, par exemple, à la fin de toutes les entretiens, elles vous proposent ça parce que c'est le gouvernement qui demande. Mais après, pour l'Allemagne, il dit si tu veux intégration, bah, tu peux faire ça, ça. Tu aussi, pareil. Il faut apprendre la langue, il faut travailler, il faut avoir tous ces critères pour avoir un peu de stabilité. Et après, bien sûr, l'Allemagne, il a changé son politique parce qu'il a un peu peur aussi. Il ne veut pas, on connaît l'histoire. Et là, pour la deuxième question au niveau de Ahmad Massoud, oui, j'ai oublié la date exacte pour te dire. J'ai participé dans cette conférence. Déjà, politiquement, j'ai participé dans une autre conférence de Ahmad Massoud qui était en Blois. Et c'était, je pense, 2022.
Au rendez-vous de l'histoire, je dirais 2024. Ouais. Non, c'était 22 déjà.
Non, je pense que 23, quelque chose comme ça, ou 24.
Peut-être voilà. 23, ouais.
Mais c'était vraiment... il était accueilli. Et c'était différent. Ce que je sentais dans
Il y avait un respect incroyable pour cet homme.
Exactement. Mais à Paris, cette fois que je suis allée là-bas, c'est pas qu'il a perdu son respect qu'il avait ici en France vis-à-vis des Français, mais ce que là, actuellement, Afghanistan y a mis un peu à côté. C'est pas...
C'est-à-dire qu'il y a l'Ukraine, il y a l'Iran.
C'est comme bien les adjoints de mairie de Paris... Arnaud Nagacha, j'ai prononcé très mal son nom.
Arnaud Nagacha.
Nagacha, qui dit bien que là, actuellement, vous savez qu'on n'a pas oublié Afghanistan. On est à côté des femmes afghanes, mais par contre, il y a beaucoup de choses ici à régler. Donc, c'est une chose très ouverte qu'ils ont dit que oui, on pense de vous, mais là, actuellement, on est trop occupés. Donc, et après, au niveau de l'atmosphère... Bien sûr, Ahmad Massoud, il est entré dans la conférence symboliquement. Tout se passait très bien. Donc, il a raconté l'histoire, son stratégie qui n'était pas très claire. Mais il a dit, oui, j'ai besoin de liberté, égalité. Et bien sûr, demander les Européens, les Ouest de lui donner un soutien pour cette résistance. Mais après, je n'ai pas un sentiment qu'il a eu ce soutien. Et même les Afghans qui étaient présents là-bas, ils ont un peu perdu leur histoire.
Même, d'accord. Ouais. En voyant la façon dont il a été reçu et les réponses apportées.
Oui, parce que déjà, au niveau de personnes qui sont venues dans la conférence, ça a changé. Au niveau de leur soutien montré, parce qu'on sent l'atmosphère de conférence, ce n'était pas pareil.
Et ouais. Toi, en tant qu'Afghane, comment tu le vis ? Ça, est-ce que d'après toi, la situation là-bas, elle peut changer que grâce à la communauté internationale ? Est-ce que toi, tu penses que ça peut changer ?
Non, jamais, jamais. En fait, c'est ça mon grand combat que j'ai fait depuis 10 années. Même quand j'étais étudiante en université, j'ai demandé à tout le monde que il faut penser à vous-même pour vous-même. Parce que c'est cette pensée. Je demande les communautés internationales. Vraiment, quand j'étais journaliste en Afghanistan, pour moi, c'était très fatigant d'écouter tout ça. Je demande les communautés internationales, s'il vous plaît, nous aider. On a besoin de paix. Ok, je te comprends. C'est une rôle, mais ce n'est pas grosse rôle. Tu vas t'en changer toi-même. Donc, non, je ne crois pas.
Et alors, du coup, quand on voit ce qui se passe en Iran? Mmh. Où justement les femmes, avec ce mouvement Femme, Vie, Liberté mmh. qui est né et qui est là, et on sent que ça, c'est par les femmes que cette société s'est soulevée. Mmh. Mais malgré tout, il y a toujours ce régime des mollahs qui est là et qui tue son propre peuple. Mmh. Est-ce que tu penses que le peuple afghan est prêt à se soulever ou est-ce que selon toi, la chape, elle est bien trop lourde pour...
Pour les femmes afghanes, j'ai dit tout le temps qu'il n'y a pas une représentant de femmes afghanes. On n'a pas de représentant. C'est symboliquement, on est beaucoup de femmes. Il y a une différence. Leader qui vient, qui dirige, c'est très important. On a beaucoup d'activistes qui vraiment battent pour les femmes, comme iranien. Mais cette leader, elle joue bien rôle. Et dans mon avis personnel, j'ai dit, il faut trouver une leader qui est vraiment soutien indépendamment une femme. Mm. Voilà. Et c'est très compliqué là actuellement en Afghanistan. Pendant toutes les périodes historiques, on sait bien que pour une femme, sans avoir un soutien derrière, c'est compliqué.
Et comme on empêche les femmes de se rencontrer pour casser justement le lien, exactement. Éviter ça, ouais. C'est compliqué. Lisa, on arrive au terme de cette émission. Ouais, c'est passé très très vite et on aurait encore vrai. Plein d'autres choses à dire.
Exactement. Et on a certains témoins qui restaient. Ben, vous partagez pour la prochaine émission que vraiment qui parle de situation. Parce que ça va continuer.
Ouais, et il faut savoir, merci à toi de collecter ces témoignages et à eux pour leur grand courage d'accepter.
Merci à toi aussi. Donc ça montre aussi qu'on est de deux différents pays, mais on bat pour les libertés d'un pays qui est là actuellement, comme professeur, il dit, qui est blessé. Donc merci à toi aussi parce que c'est une opportunité au minimum.
De faire connaître. C'est ça. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro des Voix des Femmes.
C'est ça. Et merci à tous pour écouter notre émission. Et on se dit à la prochaine.
À la prochaine. Salut à tous.